Bonjour à tous et puis bienvenue aux visiteurs, visiteuses. On est heureux aujourd'hui parce qu'il y a du soleil. Non. Ben oui, mais il y a plus que ça. On va célébrer aujourd'hui la résurrection de celui qui a donné sa vie pour nous. Alors qu'au cours de cette journée, on puisse encore découvrir tout l'amour qu'il a fallu pour qu'il prenne notre nature, hormis le péché, qui viennent mourir sur la croix, et puis qui ressuscitent. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir proclamer ce matin que tu es ressuscité. Seigneur, c'est vrai que tu es maintenant vivant. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir accepté un tel parcours, d'avoir donné ta vie sur la croix pour chacun d'entre nous, par amour pour chacun d'entre nous. Chacun peut mettre son prénom quand tu dis que tu es venu pour chacun, pour quiconque, Seigneur, et il nous a suffi que de croire. Seigneur, quelle grâce de ta part, et que nos cœurs soient libres ce matin pour t'apporter toute la louange, toute la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, que tu puisses être heureux d'entendre notre joie de t'appartenir. Nous te remettons aussi, tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, veuille les renouveler, les bénir aussi, Seigneur, qu'ils puissent aussi dire « Christ est vivant, ressuscité ». Amen.
Nous allons nous préparer à partager le repas du Seigneur en ce jour de Pâques. Et je vous invite à prendre le texte de 1 Corinthiens 11, qui, avant de nous rappeler qu'il est ressuscité, nous rappelle aussi qu'il est mort et que son corps a été brisé. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et puis, en ce jour de Pâques, nous allons prendre un texte dans Jean 20. Après avoir rappelé que son corps était brisé, nous prendrons Jean 20. On va lire les deux premiers versets, et ensuite on passera au verset 11, de 11 à 18. Jean 20, verset 1. « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » On passe au verset 11. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va, trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit toutes ces choses. La semaine dernière, pour partager la scène, nous avons déjà évoqué la Pâque la semaine dernière et nous avions parlé que Dieu avait manifesté sa puissance dans la résurrection de son Fils, donc notre Sauveur. Et que nous sommes là par la foi au bénéfice de cette puissance qui agit en nous, qui agit autour de nous, quand nous laissons le Seigneur, bien sûr, agir. C'est donc le plus extraordinaire événement de puissance que la Bible nous donne. puisqu'il a des répercussions pour nous maintenant et qu'il en a jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Il y a d'autres manifestations extraordinaires de sa puissance dans la parole, dans les miracles que le Seigneur a fait pendant son ministère et dans d'autres passages de la Bible, par exemple la traversée de la mer Rouge pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Toutes ces manifestations nous sont précieuses pour comprendre l'amour et la puissance de Dieu. Mais ce sont des choses passées, alors que la résurrection de Jésus, même si elle a eu lieu il y a 2000 ans, continue de rassembler les chrétiens tous les dimanches et particulièrement aujourd'hui. La question n'est pas pour nous de croire en la résurrection, mais plutôt d'en mesurer les attraits ou de voir ce que serait la vie chrétienne, la vie du chrétien sans cet événement majeur et essentiel. Alors les quelques pensées que je vais vous donner ce matin n'ont qu'un but en ce jour de Pâques, nous rendre heureux d'avoir un sauveur vivant. D'abord, que serait notre religion si Dieu n'avait pas été ressuscité, si le Seigneur, si Dieu n'aurait pas ressuscité son Fils? Si cet événement n'avait pas eu lieu, notre religion serait morte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Elle ressemblerait aux autres qui se confient au mieux en un Dieu très lointain, au pire qui simplement espère dans des objets ou dans des traditions par lesquelles Satan continue à aveugler. Il n'y a qu'un évangile, c'est celui qui montre la résurrection. Et c'est cet événement extraordinaire qui en fait toute la force. Cette résurrection est le pilier de notre foi chrétienne, quant au passé, quant au présent et quant à l'avenir. Donc la parole nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 14, « Et si Dieu n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. » Et la suite de ce verset, c'est la phrase « Votre foi aussi est vaine. » Mais ce matin, nous disons, comme il est vivant, nous avons donc raison de croire et cela conforte notre foi. Nous croyons en quelqu'un de vrai, en quelqu'un de vivant. Il est le moteur de notre foi. Notre foi est assurée par cet événement historique. Notre foi est solide car elle repose sur un sauveur vivant. Pourquoi est-ce que Jésus, qui a été choisi pour mourir sur cette croix et pour être ressuscité? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu prendre quelqu'un d'autre? Choisir un personnage éminent, un chef religieux, un disciple, un prophète? Ben non, ce n'était pas possible. Il n'y a que Jésus qui pouvait passer de la mort à la vie. Et qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'il était bien le Fils de Dieu, et donc un personnage divin. Notre Sauveur est vivant, notre foi n'est pas vaine, et nous avons affaire au Fils de Dieu qui a été ressuscité. Que produit cet événement pour nous ce matin? Eh bien, nous le disons depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons de la joie, nous sommes heureux. Notre interlocuteur est au ciel et il est vivant. Alors soyons donc heureux, comme c'est dit dans Jean 20 au verset 19, je vous le lis. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé la porte parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Sauveur, qu'ils voyaient le Seigneur. Et puis Jésus, une fois ressuscité, n'a pas mis fin à sa mission. Il n'a pas dit « J'ai fait ce que le Seigneur, le Dieu m'a donné à faire et maintenant c'est fini ». Non. Il a été élevé pour siéger, pour régner à la droite de Dieu. Le ressuscité est notre roi, il est le souverain par excellence. Dans son discours prononcé le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare « Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. » Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et je me suis posé la question, quelle fonction Dieu lui a-t-il donnée en tant que ressuscité? Alors il y en a beaucoup, mais j'en ai retenu deux pour ce matin. Nous allons citer donc deux choses essentielles pour nous ce matin. D'abord, depuis la droite de Dieu où il règne, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint sur nous. Acte 2, 32. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été levé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Alors nous pouvons dire, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est présent dans nos cœurs par son Esprit. Ensuite, qu'a-t-il fait pour nous? Eh bien, le ressuscité intercède pour nous. C'est un grand réconfort. Romains 8, 33, « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. S'il n'était pas ressuscité, qui nous défendrait devant le Père? Nous serions revenus à la loi avec un serviteur comme Moïse qui intercédait pour le peuple. Nous pouvons aussi maintenant être assaillis par des doutes, par des craintes, par des péchés. Nous pouvons être égarés du chemin de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il intervient en permanence pour nous défendre des attaques de Satan et de nos égarements, pour nous enlever tout doute. Qu'est-ce que pourrait faire un Dieu qui ne soit pas ressuscité, qui soit sans vie? C'est donc, entre autres, une immense mise en valeur de son amour que nous a prouvé Dieu en le ressuscitant. En contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. Matthieu 28, versets 16 et 17. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Alors on dira en conclusion, puisqu'il est au milieu de nous, nous contemplons ensemble ce Sauveur qui a été crucifié pour nous, mais qui est ressuscité et qui est vivant pour nous accompagner bien sûr tous les jours dans nos vies et dans le service que le Seigneur nous demande. Alors ce matin, le souhait que nous avons, c'est que le Saint-Esprit, par ces quelques mots, nous rende heureux d'avoir un Sauveur vivant et qui maintenant est en action pour nous, qui est en action en faveur de nos vies et pour nous glorifier devant le Seigneur. Alors je vous invite maintenant à le remercier. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu as été conduit à la résurrection pour nous. Et nous avons maintenant un Sauveur vivant qui intercède pour nous. Alors merci, Seigneur, de nous avoir encore réconfortés, de nous mettre dans la joie, parce que, Seigneur, nous avons quelqu'un de vivant qui répond, qui nous assiste et qui nous aide, Seigneur, dans tous nos besoins. Merci, Seigneur, de cette grande victoire que tu as eue par la résurrection, qui prouve, Seigneur, que tu es vraiment le Fils de Dieu. Nous te remercions pour ces instants et que ton esprit nous remplisse. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Évidemment, de la résurrection du Seigneur, et on va prendre un texte dans l'évangile de Marc. On va prendre Marc 16, et on lira les versets 1 à 11. Donc Marc 16, 1 jusqu'au verset 11. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les ayant saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il y vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Alors que le jour se lève sur ce premier matin de Pâques, quelques femmes se sont levées à l'aurore. On imagine que le sommeil a été difficile, la nuit agitée, les angoisses, les larmes abondantes, parce que le Seigneur est dans le tombeau. C'est celui en qui elles avaient mis tout leur espoir, celui qui avait guéri les malades, qui avait fait marcher les paralytiques, ressuscité des morts. Et à ce moment, elles pouvaient dire avec le psalmiste, « La détresse et l'angoisse m'atteignent ». Alors combien nous les comprenons, et puis avec peut-être facilité, nous pouvons nous mettre à la place de ces femmes qui d'entre nous n'a jamais dit « La détresse et l'angoisse m'atteignent ». Face à une difficulté, face à une maladie, face à un deuil, dans une situation qu'on ne maîtrise pas, qui paraît sans issue, et celui-là seul qui pouvait apporter une solution, qui avait aplani les sentiers, ben, il n'est plus. Une triste situation que de se retrouver à vivre sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Alors leurs larmes, les craintes, les doutes sont un petit peu, on pourrait comparer ça à un brouillard sur les yeux, sur le cœur, qui empêche de voir la réalité et de se rapprocher aux promesses de Dieu, puisqu'il avait pourtant annoncé sa mort et sa résurrection. Alors pour prendre un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le duc de Wellington, si ça vous rappelle peut-être vos cours d'histoire. C'est celui qui a remporté la bataille de Waterloo en 1815, quand les Anglais ont vaincu Napoléon Bonaparte. Et après la bataille, eh bien, il voulait vite qu'on transmette le message de victoire en Angleterre. Évidemment, il n'y avait pas de communication comme aujourd'hui, et il a envoyé un navire pour annoncer la nouvelle. Et bien, alors, comme souvent en Angleterre, eh bien, bien sûr, il y avait un énorme brouillard ce jour-là, et le bateau n'a pas pu accoster. Donc, on a voulu quand même transmettre la nouvelle et on a écrit un grand message que les gens pouvaient voir de la côte. Et du rivage, eh bien, on a regardé et on a vu ce grand message, Wellington vaincu. Alors, catastrophe, c'est la défaite, le général en chef est vaincu. Et cependant, le lendemain, le brouillard s'était dissipé et on a vu la pancarte plus distinctement. Wellington a vaincu l'ennemi. Et là, ça change tout. C'est la victoire, c'est plus la défaite. Et la nouvelle s'est répandue dans toute l'Angleterre encore plus vite que la première fois. Mais pour l'heure, le brouillard n'a pas disparu du cœur de ces femmes, de Marie, de Salomé. Et même tous les disciples sont dans le découragement. Le seul message qu'ils sont capables d'apercevoir à travers le brouillard, eh bien, c'est « Jésus est vaincu ». Le complot contre Jésus a réussi. Les chefs religieux, les Romains complices, ont réussi à se débarrasser de lui, et à vue humaine, ben, la mort a fait son œuvre, et il ne reste que le souvenir des jours paisibles avec le Seigneur et un espoir déçu. Et on imagine le regret dans le cœur des disciples, vous les voyez sur le chemin d'Emmaüs quelques jours après, incapables même de reconnaître le Seigneur qui pourtant est à leur côté, et on les entend se lamenter quand ils disent « Nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël » dans Luc 24, « Nous espérions ». Mais est-ce que l'on ne se reconnaît pas dans ses disciples quelquefois lorsque les circonstances sont contraires, qu'il y a de la compréhension dans le cœur, que je ne vois plus le Seigneur, que je me sens abandonné ou incompris? Eh bien, il y a aussi parfois un peu de brouillard devant les yeux et on est dans le doute. Alors il nous est dit, à l'aube, la parole a précise, on l'a lu, de grand matin, les trois femmes prennent le chemin du sépulcre. De grand matin, quel ardent désir, n'est-ce pas, d'être au plus près du Seigneur. Malgré les circonstances, le rattachement ne se dément pas. Et il est bon aussi pour nous de rechercher le Seigneur dès le matin. C'est l'exercice auquel se livrait le psalmiste. Psaume 143, verset 8, « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Ainsi, le cœur lourd, les bras chargés des aromates destinés à embaumer le corps de Jésus, eh bien, elles se mettent en route, ignorant que le Seigneur a prévu un face-à-face qui va bouleverser toute leur vie. Effectivement, il avait bien promis dans dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et on les voit sur le chemin, là, elles font preuve de leur inquiétude. Elles se disaient, verset 3, elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ce que l'on a lu au verset 4. Les anges même de Dieu, on le voit, sont venus en personne pour rouler la pierre. Or, le Seigneur n'avait nul besoin que cette pierre soit roulée pour sortir du tombeau. On sait bien que son corps ressuscité n'a pas pas limité par les obstacles matériels. Mais il fallait que les femmes, elles, puissent rentrer dans la tombe et voir de leurs yeux. Et vous voyez que dans cette circonstance, le ciel même s'est mobilisé pour aplanir les obstacles qui se dressent sur le chemin de celui qui veut s'approcher du Seigneur. Et sans doute quel choc ça a été pour ces trois femmes, quand par la bouche même d'un ange, elles vont apprendre la grande nouvelle, Christ est ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Ce qui semblait être un grand triomphe de l'ennemi, en fait sa plus grande défaite. Le Seigneur vit et tout a été pleinement accompli et il est ressuscité. Mais pour Marie, il manque encore une chose. Le plus important, c'est une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Et on a ça dans l'évangile de Jean, chapitre 20. On a déjà lu pendant la scène une bonne partie des... Donc on ne va pas reprendre tout le texte, mais je vous propose quand même de venir à Jean et de lire, relire. C'est toujours bon de relire la parole, de relire quelques versets. Donc Jean, chapitre 20. Et on va juste prendre les derniers versets à partir du verset 14. Donc on a déjà lu tout à l'heure. Donc Jean 20, verset 14. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et on peut penser qu'à partir de ce moment, tout a changé dans la vie de Marie. L'épais brouillard a été balayé d'un coup, et le message, on pourrait dire le message de Pâques, est devenu clair à ses yeux. Jésus a vaincu l'ennemi. Les pleurs, la crainte, la tristesse sont finalement changés en joie, parce que Jésus a remporté la victoire sur le diable, sur la mort, et puis aussi sur le péché. Alors quelles en sont les conséquences pour nous aussi ? Eh bien, déjà, la résurrection du Seigneur, c'est le cœur du message de l'Évangile. Et on a un très beau chapitre dans 1 Corinthiens, chapitre 15, qui développe tout cela. Et on va juste lire les versets 1 à 4. 1 Corinthiens 15, on reviendra plusieurs fois à ce chapitre. Versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je vous rappelle l'évangile par lequel vous êtes sauvés, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour. Et en ce jour de Pâques, eh bien, nombreuses vont être les réjouissances, les bons repas. En tout lieu, les familles vont se retrouver pour fêter la résurrection. Certains même assisteront exceptionnellement à une cérémonie religieuse. Mais combien ont déjà eu et combien aujourd'hui auront un face-à-face réel avec le Seigneur ressuscité? Mais beaucoup même vont fêter la résurrection en niant que le Seigneur soit sorti de la tombe. Et cela, c'est rejeter le cœur de l'Évangile. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, toujours, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Jésus n'est pas ressuscité, ben, prêcher l'évangile est une pure perte de temps. Et Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si Jésus n'était pas revenu à la vie, eh ben, nous serions encore perdus dans nos péchés, sans aucun pardon possible. Et Paul exprime ce point très clairement dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, où on peut lire, et je vous cite le verset, « Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » En d'autres termes, par la mort de Jésus, il a payé pour nos péchés et sa résurrection et notre justification. Et ça, quelle merveilleuse nouvelle pour tous ceux qui se sentent abattus, déprimés, pour celui qui demeure sous le poids du remords, d'une conscience chargée, troublée. Pour reprendre l'image évoquée précédemment, eh ben, c'est vivre avec un épais brouillard devant les yeux, n'apercevoir que le seul mot « vaincu ». Vaincu par mes péchés, vaincu par mes doutes, vaincu par ma culpabilité. Mais c'est le message de Pâques, Christ est ressuscité. Et là, on peut voir clairement le message, Jésus a vaincu l'ennemi. Si quelqu'un est en Christ, nous dit 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, par sa résurrection, eh ben, le Seigneur prend en charge notre passé. Mais pas seulement. Le Seigneur est ressuscité, il a tout accompli, la victoire lui appartient. Mais si nous regardons seulement avec nos yeux humains, on peut encore aujourd'hui ne pas apercevoir une pleine victoire du Seigneur sur le péché, sur le monde. Pour l'heure, on constate combien la parole de Jean 1 Jean 5 est vraie, le monde entier est sous la puissance du malin. Les cœurs sont endurcis, refusent de s'incliner devant Dieu. Le mal, sous toutes ses formes, semble gagner du terrain jour après jour. Les conflits se multiplient entre les États, mais pas seulement, bien souvent même dans les familles. Les préceptes divins sont foulés aux pieds. Et même dans l'Église, le monde rentre petit à petit, et parfois même à grands pas. Mais Paul l'avait annoncé lorsqu'il écrit à son jeune collègue Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, la liste est longue, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Et je passe au verset 6. « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. » Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Toute une description de, finalement, ce que l'on vit aujourd'hui. Et si l'on veut être honnête en regardant notre propre vie ou ma propre vie, est-ce que je ne suis pas aussi souvent vaincu par la tentation, par les ruses du diable, par l'incrédulité, par l'orgueil? Et on entend dans le monde cette expression, « Si Dieu existait, si Dieu s'intéressait à moi, pourquoi ces problèmes, pourquoi ces drames dans le monde ?» Et là encore, c'est un petit peu comme regarder au loin à travers le brouillard et voir simplement vaincu. Mais on annonce ce matin, on se rappelle qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il règne. Et 1 Corinthiens 15, 25 nous rappelle, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et Hébreux 2 nous confirme ce point. L'apôtre écrit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore, maintenant, que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ainsi, le Seigneur a vaincu ses ennemis, c'est une chose faite. » Et même si nous ne le voyons pas de façon concrète en tout point dans ce monde, il est en train d'écraser les ennemis, même si nos yeux ont du mal à le voir. Et nous avons besoin tous des yeux de la foi pour pénétrer le brouillard, être capable de dire, c'est vrai, il règne aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, dans ma vie, et nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit pour pouvoir lire l'Écriture. La victoire a été accomplie par le Seigneur. Mais la parole va plus loin. en nous associant à cette vie divine. On lit dans Éphésiens 2, 5, « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. » C'est une chose faite avec lui. « Et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il nous a ressuscités ensemble. C'est pas, dans ma Bible, ce n'est pas écrit au futur. « Et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Ainsi, la résurrection du Seigneur, il y a 2000 ans, a complètement changé nos vies présentes aujourd'hui. Et dans la lettre qu'il écrit à Rome, Paul écrit au verset 4 du chapitre 6, « Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà une des conséquences, un des buts, que nous marchions en nouveauté de vie. Il est ressuscité physiquement, et sa puissance de résurrection a comme résultat que nous sommes ressuscités spirituellement, et notre vie devrait démontrer cette réalité. Alors peut-être elle ne le démontre pas toujours. Il est vrai que le péché nous enveloppe si facilement, comme le dit la parole, et nous avons encore des progrès à faire. Mais il est aussi vrai également que nous nous privons parfois du réconfort et du secours du Seigneur en pensant régler tout par nous-mêmes, pensant être assez forts pour combattre le péché. Et qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là? Eh bien, c'est la défaite, le découragement, le sentiment d'être vaincu. Alors que faire dans nos épreuves, dans nos tentations? Eh bien, souvenons-nous que le Seigneur est ressuscité. Que faire dans les situations qui semblent impossibles? Souvenons-nous qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Et il nous a ramené aussi, il nous a transmis sa vie et il veut être notre secours, le soutien dans chaque situation et pour chaque problème. Et si on a les yeux fixés sur le Seigneur, le brouillard disparaît, la joie revient, la confiance. Et il nous donne la victoire, même si on ne la voit pas encore complètement aujourd'hui. De plus, quelle ne doit pas être notre reconnaissance ce matin? La résurrection du Seigneur est associée à une grande espérance qui est la nôtre aujourd'hui, celle d'un héritage glorieux, c'est ce que nous dit la parole. Dans 1 Pierre 1,4, l'apôtre écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Dans quel but? Eh bien, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés, par la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Rien de moins que cela. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi transformés pour le servir en attendant. Le Seigneur nous a fait non seulement nous a donné une vie nouvelle, mais il veut nous associer à son œuvre. Nous sommes, dit la parole, ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3:9. Et ça, quel privilège et quelle responsabilité. D'ailleurs, quelles ont été les premières paroles que Jésus a dites à Marie? Une des premières. « Va trouver mes frères et dis-leur. » Elle est immédiatement devenue une messagère pour dire aux frères, pour annoncer la nouvelle, pour dire « Il est ressuscité ». Et quelles ont été les dernières paroles du Seigneur avant son départ de cette terre, dans Matthieu 28? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est le même ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ainsi, le Seigneur ressuscité est aussi à nos côtés pour diriger notre vie présente. Et il nous donne aussi la certitude de la résurrection future. Nous avons une merveilleuse espérance pour l'avenir. Il y a tant de besoins dans ce monde, un monde sans espérance, sans Dieu. L'Ecclésiaste écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et qu'est-ce que l'on voit autour de nous? Des gens qui travaillent dur toute leur vie, des maladies, certains sont frustrés, d'autres souffrent d'affections diverses. Et à la fin, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous ayons été bons ou méchants, la route se termine au même endroit. Alors pourquoi travailler? Pourquoi vivre honnêtement? Pourquoi se forcer à bien éduquer ses enfants? Pourquoi se forcer à faire un travail sérieux? Sans la résurrection, la vie actuelle, eh ben, n'a pas de sens, c'est ce que nous dit la parole. Paul ne s'y trompe pas quand il écrit au verset 32 du chapitre 15 d'un Corinthien. « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, eh ben mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Peu importe les richesses ou les succès que l'on peut remporter, une vie sans espérance se termine par ce seul mot, vaincu, vaincu par la mort. » Mais pour les chrétiens, c'est tellement différent. Ce que l'on fait aujourd'hui, jour de Pâques, bouleverse complètement nos façons de voir l'avenir, parce qu'il est ressuscité, il est notre espérance, il a vaincu la mort. La Bible nous dit, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est quoi les prémices ? Les prémices, c'est les premiers fruits de la récolte. Jésus était le premier d'une grande récolte, et sa résurrection nous garantit notre propre résurrection. Aucun médecin n'a jamais trouvé une solution pour éviter la mort, il me semble. C'est impossible. Nous allons tous partir, à moins que Jésus ne revienne avant ce moment-là. Mais quelle glorieuse espérance! Nous allons ressusciter avec lui pour être semblables à lui pour l'éternité. Et la parole nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors pour conclure, prenons le verset 58 de 1 Corinthiens 15. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors soyons dans la joie ce matin, il est vraiment ressuscité, il a pris en charge notre passé, il l'a réglé, il est à côté de nous dans notre présent, il garantit notre avenir. Alors on peut regarder et voir clairement les paroles, Jésus a vaincu l'ennemi.
Oui, nous ne sommes jamais tout seuls. Seigneur, nous voulons aujourd'hui fêter ta victoire contre la mort, ta victoire contre le mal. Tu as mis Satan à terre et nous voulons garder ta parole à nos pieds comme une lampe pour passer la semaine qui s'annonce afin que tu nous gardes, que tu nous nourrisses l'âme et que tu prépares nos cœurs à ton retour, car tu nous l'as promis. Je viendrai vous chercher. Viens, Seigneur Jésus. Amen.